Du 1er au 17 juin, le festival Latitude Contemporaine s'empare de la métropole lilloise. Ce festival voué aux nouvelles formes du spectacle vivant mêle avec goût, danse, théâtre, concerts et bien d'autres choses pour vous faire découvrir l'art dans toute sa splendeur. Ici, les maîtres mots sont expérience, curiosité, transdisciplinarité, diversité critique et créativité. Alors amateurs d'art en tout genre, en quête de découverte, venez ouvrir grand vos yeux et éveiller vos sens dans ce lieu de rencontre culturelle. Plus d'infos sur latitudecontemporaine.com.
Voilà, sur Radio Campus, eh bien, nous retrouvons Maria Carmela Mini, la directrice de ce festival Latitude Contemporaine et de cette association qui sert de support à cet événement annuel qui a des développements aussi tout au long de l'année. On a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière. Bonjour Maria Carmela Mini.
Bonjour.
Donc voilà 15 jours maintenant de festival.
Tout à fait, oui.
Donc je ne vais pas dire qu'on va faire un bilan puisque ce sera la semaine prochaine.
Absolument.
On va voir peut-être quelques petits spectacles et quelques événements qui ont peut-être nous ont fait réagir. Et puis préparer aussi, puisque ça se termine le 17, le festival, préparer le public à voir les derniers. Qui
Absolument.
Auront lieu donc demain, après-demain.
Tout à fait. Donc on est dans la dernière ligne droite.
Voilà. Donc, je suis allé voir quelques spectacles, mais je n'ai pas pu tout voir malheureusement. Mais bon, on peut peut-être revenir un peu sur les journées qui ont eu lieu à la condition publique. Donc un endroit où... Alors je trouvais ça très, très intéressant parce que dans ce lieu, il y a beaucoup... d'espaces, on peut dire, et des espaces qui permettent de faire passer le public d'une salle à l'autre.
Absolument, donc c'était la première fois qu'on faisait cette tentative d'exploiter quasiment dans son ensemble la condition publique, parce que voilà, c'est en effet un lieu qui le permet et donc voilà, il faut y travailler encore, je pense, à cette tentative.
Mais oui, c'est intéressant de voir la diversité des scènes.
Tout à fait, oui. Et puis, comment exploiter les différents espaces et en effet, faire un focus de quelques jours, en l'occurrence, c'était 3 jours, de manière intense, en proposant en effet au public d'aller d'un lieu à un autre et de découvrir des formes. Somme toute assez différentes et donc ça me plaît beaucoup de créer ce type d'événement en tous les cas, mais je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire pour arriver vraiment à ce que l'objectif que je me suis donné en tous les cas dans ce lieu.
Mmh. Alors, dans la programmation, j'ai pu voir Legends and Rumors.
Oui.
C'est un beau spectacle, intéressant, avec du sens aussi.
Tout à fait, oui. C'est un spectacle sur la dérision, je trouve, de notre quotidien et des actes que l'on fait tous les jours de manière habituelle, sans en tenir compte, et comment, en fait, les 3 performeurs nous montrent que ça peut... influencer en tous les cas le rythme de notre journée.
Donc on peut présenter peut-être on va dire c'est une compagnie, mais ce sont surtout 3 personnes.
Tout à fait, oui. Donc il y a Philaïès, Maria Jerez et Thomas Kass-Baker. Donc ils sont 3 magnifiques performeurs que je connaissais chacun de manière individuelle pour les avoir travailler dans d'autres compagnies. Et là... je connaissais leur qualité de travail et le fait qu'ils se réunissent pour un même projet m'avait vraiment intéressé et ce type de projet est toujours un peu un challenge parce que quand il y a 3 fortes personnalités qui se réunissent, soit ça devient une proposition extraordinaire, soit ça peut faire aussi un flop et il se produit rien sur scène. Et là, en tous les cas, ça fonctionne. Comment chacun respecte le territoire de l'autre, relance aussi l'autre, puisque c'est une forme performante performative et qui est complètement qui se construit au fur et à mesure, donc c'est du spectacle, hein. Donc il y a une improvisation des trois performeurs et chacun influence sur ce que va fabriquer l'autre, donc voilà, ça a bien fonctionné en tout cas.
Donc effectivement, fabriqué, hein, on voit de la mise en espace de choses, on va dire de l'univers quotidien qui prennent forme et qui créent beaucoup d'humour finalement.
Absolument, oui, les gens ont beaucoup ri et moi ça faisait... Là, sur les latitudes, je l'ai vu deux fois, mais ça faisait la cinquième fois, je crois, que j'en ai vu cinq en tout. Et je peux vraiment, pour les spectateurs qui ont pu au moins en voir deux, ça change beaucoup. C'est-à-dire que le début du spectacle vraiment prédéfinit ce qui va se construire et est très très important. Et évidemment, chaque début de spectacle, étant donné qu'on est dans une improvisation total, se construit de manière différente d'un soir à l'autre. Et moi, j'ai vu donc cinq fois et cinq fois vraiment avec des choses extrêmement différentes.
Donc un spectacle qui est basé aussi sur le comique de répétition dans l'improvisation.
Absolument.
Voilà, et bien un espace qui se rétrécit et voilà, et qui génère ses propres surprises, on va dire, avec une part d'imprévus qui sont cocasses.
Oui, oui, tout à fait. Et puis à ce côté joute entre eux qui est drôle. Ouais. Enfin, moi, je leur regarde vraiment les regards, les sourires, et quand ils sont au bord de l'éclat de rire, c'est du fou rire parce qu'ils sont surpris par eux-mêmes ou par ce que fait un de leurs collègues. Ça m'amuse beaucoup.
Alors, je ne sais pas si c'était dans les autres spectacles, mais le coup du porte-manteau qui tombe, etc., qui se retrouve entre les jambes, ça, c'était pas prévu.
Ça, c'était, par exemple, je l'ai vu cinq fois et c'est la première fois.
Ah ouais, alors ça c'était drôle parce qu'il faut expliquer que une fois que bon, il y a des on va dire du mobilier, des choses comme ça, et puis il y a des jeux qui se font entre les personnages, et quand par exemple il faut refaire les gestes de la même manière en reproduisant les séquences et en les prolongeant, c'est un peu l'idée. Et à un moment donné, il y a un porte-manteau qui tombe et qui se retrouve entre les jambes d'un des comédiens, et donc après, pour répéter ces scènes là il faut arriver à ce que le porte-manteau retombe au même endroit.
Absolument.
C'est vraiment très fort.
Ouais. Absolument.
Voilà, c'est un vrai jeu. C'est un bonheur. Voilà. J'aimerais aussi qu'on parle de cette grande soirée à l'Opéra de Lille, puisque là, en l'occurrence, l'Opéra de Lyon était mobilisé.
Tout à fait. Donc, on a montré trois pièces avec Caroline Sorier. On avait décidé de montrer une soirée ballet de l'Opéra de Lyon. Et en fait, pour moi, c'était important de montrer les pièces de François Chéniaud, Cecilia Bengolea et Rachidou Ramdan. Parce que ce sont des artistes d'abord qui sont invités de manière récurrente dans le Festival d'Attitude. J'ai quasiment montré toutes les pièces des deux compagnies. Et puis, la pièce de Merce Cunningham, Winterbrunch, était vraiment pas montré depuis très très longtemps. Mmh. Et quand on a donc demandé une soirée composée au directeur du Ballet de Lyon, on lui a proposé de remonter donc cette pièce de Merce Cunningham, une pièce qui date quand même de 1964. Et en fait qui est extrêmement contemporaine, c'est-à-dire qu'un artiste aujourd'hui pourrait tout à fait créer cette pièce, et on pensait qu'il l'a fait aujourd'hui évidemment, et donc de remettre en perspective un langage chorégraphique en montrant deux pièces de 2016 se confronter à une pièce de 1964 me paraissait intéressant pour le public et pour qu'il puisse faire ce travail mental et historique à travers ces trois pièces qui dialoguent à plus de 50 ans de distance.
Alors c'est vrai que vous avez la chance de bénéficier de l'Opéra de Lille en tant que scène et aussi du ballet qui est quand même conséquent de l'Opéra de Lyon, notamment pour la présentation du travail de Rachidou Ramdan.
Oui, ils étaient 27 je crois. crois, sur le plateau. Oui.
Et donc, un spectacle assez fantastique. Hein. C'est, ça part, ça se construit, ça se croise, ça s'entrecroise. C'est d'une précision millimétrique.
Tout à fait, oui. J'ai l'habitude de dire que, de toute façon, les danseurs du Ballet de Lyon, je pense que, sans vouloir froisser les autres ballets de France, mais je pense que c'est un des plus beaux ballets de France. Hein. Évidemment, il y a l'Opéra de Paris qui excelle également, mais après je pense que très, très vite, très proche à le Ballet de Lyon, et c'est vraiment des Ferrari ces danseurs, c'est des machines vraiment d'une précision incroyable.
On leur demande beaucoup, hein.
Oui.
Monter sur pointe au départ comme ça et tenir la distance, c'est incroyable.
Oui,
hein.
Dans la pièce de François Chéniaud, Cécilia Mengolo, là, ouais. Oui, la première image est fantastique,
incroyable.
Lorsque le rideau s'ouvre et il y a 8 danseurs ou 9 danseurs, je ne sais plus, sur pointe.
Les danseurs et danseuses, hein, c'est assez remarquable. Quoi. Comment tenir comme ça longtemps,
oui.
C'est fabuleux.
Tellement.
On se demande même quand ils vont s'effondrer quand même. Il y a un petit peu ce souci.
Oui, oui, et c'est intéressant parce qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu le même soir que moi, mais le soir, enfin je l'ai vu deux fois à Lille, et j'ai vu deux soirs, et puis il y a un des soirs où au moment où le rideau s'est ouvert, il y a eu une respiration dans la salle, c'est-à-dire que le public a fait comme ça, quelque chose comme ça. Et c'était assez beau parce que, comme si le public retenait sa respiration pour aider les danseurs à tenir sur l'œil pointe. Et c'est cette relation-là, en fait, que je cherche tout le temps, qui est entre le public et la scène.
Pour rappeler François Chéniaud, là, il était, il a travaillé avec le Ballet de Lyon, mais sinon, on le connaît bien aussi dans la région.
Bien sûr, oui, ce que je disais tout à l'heure. Donc, François Chéniaud est la première fois que j'ai présenté François, je ne me souviens pas l'année, mais il y a très très longtemps.
Ouais, il y a longtemps.
Et alors, il avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était dans les couloirs du théâtre de Garage Roubaix, dans une toute petite pièce minuscule. Il faisait une performance sur des matelas. Mais il était tout jeune, il commençait, je pense qu'il y a une dizaine d'années déjà de ça.
Donc là, il a bénéficié de cette technicité, hein, que j'imagine mal à faire ailleurs. Quoi.
Absolument, oui, non. D'autres danseurs auraient beaucoup de mal à...
Ils auraient refusé de toute façon, il ne faut quand même pas exagérer.
Et pour vous mettre dans la confidence, il y a des danseurs de l'Opéra de Lyon qui ont refusé.
J'imagine,
parce
ils ont
que
raison.
C'est très très difficile.
Pas, c'est évident. Ouais. Ouais. Voilà, donc une soirée, on va dire qu'il y a... Bon, il n'y avait pas une standing ovation, mais presque, hein, sur Rachid Ouamdam. Les gens ont bien compris l'importance de cette pièce et puis la technicité. Voilà, il y avait un vrai emballement à la fin.
Absolument, oui. Tout à fait.
Voilà, donc des grands moments. Hein, et voilà. Donc il y a eu aussi un débat, une journée complète consacrée à la laïcité dans l'art, dans la culture d'une manière générale, hein, avec des invités fort intéressants. Et bon, c'est toujours intéressant aussi de repositionner les spectacles et la culture d'une manière générale dans une société qui bouge.
Tout à fait, oui. Et donc il y a eu cette journée du 10 juin qui a lieu à la Gare Saint-Sauveur, et c'était très très riche. Hein. On a vraiment eu des interlocuteurs de très très grande qualité, et en particulier Philippe Lazard, qui nous a vraiment fait un exposé extraordinaire sur le principe de laïcité. Et moi qui me demandais comment on peut définir la laïcité en une phrase, il a réussi à le faire, donc j'ai été assez convaincue par son exposé. Et puis ce qui est intéressant, c'est que on regarde de ces apports intellectuels et des intellectuels, il y avait vraiment aussi la participation de plusieurs artistes et aussi programmateurs qui nous ramenaient aussi au réel. Et comment, quand on est programmateur, comment on est artiste, on gère les questions religieuses et donc de laïcité. Évidemment.
C'est vrai qu'il y a toujours eu, évidemment, pour n'importe quel programmateur, un minimum de prise de conscience avant de diffuser une pièce, de son environnement, de son public. Mais là, ça devient un peu plus compliqué qu'il y a 10 ans.
Tout à fait, oui, oui. Le religieux a vraiment, arrive vraiment en force depuis quelques années dans la société civile. Et donc, quand on est directeur ou d'un festival ou d'un théâtre, on est confronté à ces réalités-là. Donc on doit en effet travailler avec ces questions. Et...
Dans un sens ou dans un autre, il y a beaucoup de gens qui ont quitté les responsabilités culturelles à Béziers notamment. Et ça devient un peu compliqué.
Tout à fait, oui. Et puis, là, enfin, pour des questions de liées au Front National, mais...
La politique culturelle locale.
Tout à fait, on va dire ça. Et, mais... Oui, c'est compliqué parce que... il faut toujours... Enfin, moi, je suis extrême... En tant que programmatrice, je suis extrêmement vigilante à ne jamais... m'autocensurer. Et c'est compliqué parce que, bien entendu, qu'on tient compte d'un territoire, bien entendu, qu'on tient compte d'un public, bien entendu, qu'on tient compte de circonstances dans lesquelles on se trouve. Mais en même temps, il faut toujours faire attention, pour moi, à ne pas céder à tel ou tel chantage ou pression, et ça et même, je dirais, même de l'auto-pression, enfin, c'est-à-dire que c'est là où c'est un peu dangereux, et la frontière, elle est vraiment ténue tout le temps, et donc il faut vraiment être très très vigilant avec soi-même.
Est-ce que les lieux culturels voient leurs subventions éventuellement remises en cause plutôt par les politiques très locales ou par les politiques nationales dans le cadre, par exemple, de prise de position, de présentation de spectacles qui ne sont pas forcément dans l'air du temps? Est-ce qu'il y a des conventions? Comment ça se passe? Parce que, bien sûr, tous les lieux ont des conventions, je pense aux scènes nationales, souvent avec plusieurs parties, hein, ça peut être la région, les départements, quand ils financent encore la ville, etc. C'est compliqué de mettre tout le monde d'accord.
En tous les cas, moi, je n'ai jamais eu de pression du politique. C'est-à-dire qu'on me fait confiance, on me donne la direction d'un festival. Par exemple, un cas très concret, il y avait Kobra, donc cette performeuse afghane qui est venue et qui, normalement, elle devait faire sa performance à l'extérieur et donc porter un homme nu. J'ai demandé les autorisations à la ville de Lille, par exemple, et ça n'a posé aucun problème. C'est-à-dire que à partir du moment où j'explique, où je fais, voilà, où je suis totalement transparente sur ce qui va se passer et la raison, les motivations qui poussent. On n'est pas dans l'exhibitionnisme à partir du moment où c'est une performeuse afghane qui est réfugiée politique, qui veut faire passer un message sur la situation des femmes dans son pays. Voilà, pour moi, je n'ai pas de question à me poser. C'est-à-dire que, oui, elle est totalement légitime à faire cet acte. Et la ville de Lille n'a opposé aucune résistance à ça, et elle a très, très bien compris la démarche. Ce que je vais dire, je vais le mettre entre guillemets, parce qu'en fait, ça vient de... J'ai reçu un mail hier et je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser plus que ça, parce que je suis en plein festival et je suis un peu occupée. Mais je sais que certaines villes, avec certains dirigeants que je ne nommerai pas, ont demandé à ce que dans certains contrats de cession ou de coproduction, il y ait une clause où il est bien indiqué que si l'artiste prenait une direction politique dans ses propos, la représentation pourrait être annulée. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça, évidemment. Donc, je trouve ça un peu dangereux quand même d'indiquer cette clause dans un contrat qui nous lie à un artiste.
Donc c'est vrai que les spectacles qui vous sont proposés, bon, en général vous les avez vus avant, vous avez quand même une idée de ce qui peut se passer.
Je ne les ai pas tous vus.
Non, je sais, j'ai confiance, il y a des cartes blanches, bien sûr.
Oui, tout à fait, il y a des créations. Donc,
Est-ce qu'il y a des spectacles que vous ne feriez pas venir pour des raisons qui sont personnelles ou qui sont propres aussi, peut-être, à la région, à la ville?
Des spectacles qui pourraient inciter à la haine ou qui excluraient une certaine catégorie de population, ça évidemment je le ferai pas. mais c'est pas lié à la ville, c'est juste moi et moi qui j'ai une certaine conscience, une certaine éthique, j'ai envie de dire, et donc et c'est sûr que je fais un raccourci mental, mais là, ce qui se passe avec les homosexuels actuellement, ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe en Libye où il y a et en Syrie où il y a des homosexuels qui sont défenestrés, ça me rend furieuse. C'est insupportable pour moi. Donc voilà, s'il y a des spectacles qui inciteraient à la haine sur qui seraient homophobes ou qui seraient racistes ou etc. Bien entendu, je les programme. Enfin, je n'y pense même pas une seconde. Quoi. C'est exclu de mon cerveau.
Est-ce que vous sentez des tendances qui vont dans ce sens dans le spectacle, les spectacles qui sont créés en Europe?
Des tendances qui vont dans ce sens?
Qui vont dans un sens, on va dire, homophobe de quelque chose.
Non, plutôt les artistes, en tous les cas, ce que je vais voir, alors je vois pas tout ce qui se... Vous imaginez bien que je vais pas voir tous les spectacles qui se fabriquent dans le monde entier.
Ouais.
En tous les cas, dans ce que je vais voir... c'est les artistes, non, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont comme des vigies quelque part, justement, du bien vivre ensemble, de la tolérance, et ils sont plutôt en train de dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Donc
on peut dire que, par exemple, en Autriche, on ne sait pas ce que ça serait devenu, mais le risque n'est pas grand de voir apparaître des formes, on va dire, critiquables.
Oh, je crois pas. Après, qu'il y ait des artistes, mais ça a été de tout temps. On l'a vu dans l'histoire du XXe siècle. Il y a plein d'artistes qui se sont fait récupérer. Et donc après, je pense que c'est... qu'ils se sont fait récupérer par tel ou tel régime et dictature. Donc c'est à chacun. Je crois qu'il faut faire confiance. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc il faut, je fais confiance aux gens et... Je me dis qu'à partir du moment où on a un peu de conscience, il y a un libre arbitre qui se fait et puis chacun prend la position qu'il souhaite.
Voilà, donc nous sommes toujours avec Maria Carmela Mini, directrice du festival Latitude Contemporaine, un festival qui pour partie est en perspective... avec l'Euro de foot.
Oui.
Est-ce que vous avez, par rapport à ça, est-ce que vous ressentez quelque chose en ce moment par rapport à ça ou pas, en tant que responsable culturel?
Je sens que beaucoup de gens sont énervés. Il y a une excitation. J'ai mis beaucoup plus de temps à arriver jusqu'ici.
Oui, j'imagine. Donc,
je me suis rendu compte qu'il y avait plein de barrières qui entouraient Radio Campus et que vous étiez... quasiment dans un bunker, René, donc pour vous rejoindre, c'était compliqué. Déjà, c'était une première chose. Et puis, en termes de non, en tous les cas, on n'a pas eu de déficience de public. Hier, on a joué les lettres de non-motivation au Grand Sud, il y avait plus de place, donc c'était 400 places de gradin entier. Donc, ce soir, c'est plein, demain, c'est plein. Donc, non, on n'a pas... Après... est-ce que c'est un public différent? Peut-être il y a plus de femmes, et encore, je n'ai pas fait très attention à ça. Mais en tous les cas, il y a une effervescence dans la ville, ça c'est évident, oui.
C'est vrai que peut-être les femmes sont peut-être un peu plus tranquilles en ce moment.
Oui.
Elles peuvent peut-être s'épanouir aussi à l'extérieur. Donc on va parler...
Mais en même temps, j'ai une très belle histoire, parce qu'en fait, Nadia Begré, qui va jouer bientôt au Grand Sud, c'est elle qui fait la clôture du festival vendredi, c'est une fan de foot, en fait. Et elle s'est émancipée à travers le foot, donc parce que son père, donc elle est née de Côte d'Ivoire et son père voulait la marier quand elle avait 13 ans. Et en fait, son futur mari potentiel n'a pas voulu de Nadia parce qu'elle a joué au foot. Et donc voilà, je trouve que c'est plutôt chouette.
Bon, on peut encourager les jeunes filles qui veulent se marier à un âge normal ou raisonnable de faire du foot.
Ça peut.
Non, en plus, il n'y a pas que la sociologie qui est un sport de combat. On peut imaginer aussi d'autres formes sportives qui pourraient apporter aux femmes un certain poids dans les hypothétiques couples.
Absolument.
Voilà, on va parler peut-être d'un moment que j'attends aussi en termes d'idées. C'est demain et ça se passera à Lille FIV.
Oui.
C'est la création, enfin une présentation d'une étape de création.
Tout à fait.
D'un spectacle autour d'un thème de société.
Absolument. Donc, la violence faite aux riches. Donc c'est un spectacle qui est... Enfin, c'est pas un spectacle.
La violence des riches.
Oui.
Non, on peut en faire. Mais pour l'instant, c'est plutôt dans l'autre sens.
La violence.
Mais on va se venger.
mais en fait, c'est parce que je suis allée voir une répétition. C'est ce qui a influencé que j'ai changé un peu le titre, mais dans mon cerveau. Mais en fait, je suis allée voir une répétition hier et en fait, ils s'amusent avec ça. C'est-à-dire que il y a des scènes où c'est très drôle parce que ils montrent comment les riches souffrent en fait et comment la société leur inflige quand même des choses insupportables.
On pleure. En fait, on devrait montrer tout ça pour qu'on se soit pas jaloux. C'est très riche, c'est très difficile d'être riche et de le rester.
C'est tout à fait, et c'est ce qu'il démontre pendant tout le spectacle.
Bon. Donc voilà, ça se passera donc demain, nous serons jeudi, et ce sera dans ce lieu qui s'appelle
le théâtre Massenet
hein, bien sûr, à Lille FIV. Il y aura d'autres choses, mais à Bouddha aussi.
Oui, donc ce soir on est à Bouddha à Courtrai avec deux propositions, donc celle de Sarah Menent et Carlos Simeos. Donc tout à l'heure on parlait de création et de choses que je n'avais pas vues, donc je n'ai pas vu ce spectacle. Donc puisque c'est la première ce soir et qu'ils ont été en résidence pendant quelques semaines à Bouddha. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que le public.
Bouddha qui est un centre d'art d'une manière globale, on peut dire.
Tout à fait.
C'est un peu différent comme lieu, avec un public aussi différent.
Oui, c'est très flamand dans sa conception. C'est-à-dire que il y a à la fois une galerie d'art, un cinéma, des salles d'exposition, un café, etc. Enfin, des studios de répétition et tout ça sur un même site. Oui, c'est assez agréable.
On peut parler aussi du Prato.
Oui, alors le Prato avec Larry Bott, Larry Bott qui va créer, elle est depuis maintenant au Prato, avec Another Distingué, et donc c'est la suite de sa série de pièces distinguées de courtes pièces qui sont vendues comme des œuvres d'art, Et là aussi, je me suis presque obligée à ne pas aller voir des répétitions, en fait, parce que j'avais très envie. Et en fait, comme je connais très très bien Larry Bott, puisque j'étais sa productrice pendant plus de 7 ans, je ne voulais pas me remettre dans une position de productrice, c'est-à-dire mon regard dans le regard d'une productrice, d'un artiste, et j'ai voulu rester à ma place de programmatrice, et donc de découvrir en fait le spectacle avec le public, donc demain.
Voilà, donc demain, ensuite vendredi, ce sera la soirée de clôture, on va dire, au Grand Sud.
Tout à fait, donc avec Nadia Begré, donc Legacy, très belle pièce avec, je crois qu'elles sont 14 figurantes sur le plateau, autour de la femme africaine et de l'émancipation des femmes et de leur histoire et comment... L'histoire africaine a oublié des femmes qui l'ont construite, et donc elle essaye de réhabiliter quelques femmes oubliées de l'histoire. Et c'est très très fort, vraiment. Et Nadia est une performeuse extraordinaire pour les gens. Un monstre, enfin, de d'énergie et de force quand elle est sur le plateau. Elle ne laisse personne indifférent, et elle est accompagnée d'une autre interprète qui est vraiment une interprète que j'aime beaucoup, qui est Anna Edman, qui est presque à l'opposé de Nadia, qui est tout en force, et Anna, elle est vraiment dans une autre force, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus fine et longiligne et presque douce, mais en même temps derrière on sent qu'elle en a sous le pied, comme on dit. donc voilà, c'est un très très beau duo accompagné de 14 figurantes sur le plateau. Et puis on poursuivra et on clôturera le festival avec deux concerts qui sont gratuits, hein, donc à partir de 22h, avec un très jeune musicien, Wahanu Diarra, qui est un magnifique joueur de flûte traditionnel de Côte d'Ivoire, qui joue comme un dieu et qui essaye de faire le lien entre les musiques traditionnelles africaines et les musiques contemporaines. Et puis ce premier concert sera suivi d'un second de Manu Gallo, avec un groupe de musique qui s'appelle Music Machine, qui viennent de Hollande.
Voilà, eh bien, ça clôturera donc ces latitudes, et on se retrouvera pour faire un bilan la semaine prochaine à 16h30. Et d'ici là, bon spectacle à tous.
Merci beaucoup.
Merci Maria Carmela Mini.
Sa 13e édition, et en partenariat avec Radio Campus, du 1er au 17 juin, le festival Latitude Contemporaine s'empare de la métropole lilloise. Ce festival voué aux nouvelles formes du spectacle vivant mêle avec goût, danse, théâtre, concert et bien d'autres choses pour vous faire découvrir l'art dans toute sa splendeur. Ici, les maîtres mots sont expérience, curiosité, transdisciplinarité, diversité critique et créativité. Alors amateurs d'art en tout genre, en quête de découverte, venez ouvrir grand vos yeux et éveiller vos sens dans ce lieu de rencontre culturelle. Plus d'infos sur latitudecontemporaine.com.